gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va?
Écoutez bien La Causerie sur Radio Canu 102.2, sur internet également, sur je sais pas où.
RadioCanu.org.
Voilà, c'est bien fait. Ce soir, nous avons à la technique Clara.
Bonsoir.
Fab.
Salut.
Et Jonathan.
Coucou.
Ils sont autour de la table, hein, pas à la technique.
Aussi. Non. Et Stan qui fait l'ouverture pour la première fois.
Et elle est magnifique.
Bravo.
Wouh.
Vous pouvez nous contacter par mail à lacausericanu@gmail.com. Et sur le blog également.
Ouais.
Donc c'est blogs.
blogs.radiocanu.org/lacauserie, où tu vas à radiocanu.org, tu regardes les blogs des émissions, tu cherches La Causerie et on est là.
Et également sur un réseau social bleu avec qui commence par un F.
Et finit par un K.
T'avais très envie de la dire. Ça.
Oui.
Ok, on va faire comme ça alors.
On fait un pendu ce soir.
Ah, c'est pendu ce soir alors, Clara.
C'est ça.
Ouais. Faut que les gens nous appellent pour chaque lettre.
Tu notes les petites barres.
Voilà.
Et donc, c'est toi, Fab, qui ouvre.
Oui, c'est ça. C'est moi qui vais démarrer La Causerie ce soir avec un sujet pas très drôle, mais dont on parle assez peu dans les médias. Et je me suis dit que c'était bien qu'à La Causerie, on essaye d'ouvrir un petit peu là-dessus pour que les gens soient au courant. Donc, je vais vous parler du Yémen et en particulier de ce qui se passe aujourd'hui au Yémen. Alors, on va resituer géographiquement où se trouve le Yémen. Donc, le Yémen, c'est en Asie, hein, c'est-à-dire que c'est sous l'Arabie Saoudite. Oui, pour ceux qui font pas de la géographie, l'Arabie Saoudite, c'est en Asie. Hein. Donc voilà, c'est pour ceux qui connaissent, c'est le détroit d'Aden ou la baie d'Aden, qui est une ville du Yémen, et c'est en face de Djibouti. Pour ceux qui voient où se trouve Djibouti en Afrique. Voilà. Pourquoi je vous parle du Yémen ? Parce qu'en fait, en ce moment, et depuis maintenant quelques années, s'y déroule une guerre qui au départ était une guerre civile, et qui est devenue une guerre internationale, et en fait, tout le monde s'en fout parce qu'on n'en parle pas. Donc je me suis dit quand même, faut qu'on en parle un petit peu. Je vais vous faire un petit retour en arrière. Le Yémen... D'abord, vous rappelez que c'est un pays qui, en 2013, déclarait 24,41 millions d'habitants. Donc, c'est pas un tout petit pays avec peu de monde dedans. C'est un pays assez grand, certes, mais où il y a beaucoup de gens et que les gens sont majoritairement concentrés sur deux villes, Aden et Sana'a, qui est la capitale du Yémen. Voilà. Alors en 2011, il y a eu les printemps arabes, hein, vous vous souvenez, et le Yémen n'a pas été épargné par les printemps arabes, et tant mieux, parce qu'ils ont viré en 2012 Ali Abdallah Saleh, qui était le président dictateur général du Yémen depuis 33 ans, et ils se sont dit, bon, il y a un peu longtemps qu'on te voit, serait bien que tu te casses, voilà. Et en fait, au départ, ça part donc d'une vraie... on va dire soulèvement populaire, qui était, pour être très clair, pas du tout confessionnel, contrairement à ce que certains ont dit, et qui en fait regroupait les chiites et les sunnites du Yémen. Parce que la particularité du Yémen, c'est justement d'avoir des chiites et des sunnites sur le même territoire, et ce depuis des siècles, et en fait jusqu'à maintenant... il n'y avait pas forcément d'envie des uns ou des autres de prendre le pouvoir les uns sur les autres, enfin, surtout que c'est une dictature militaire, donc après la couleur du dictateur n'avait plus une grande importance. Donc en 2012, c'est ce qui s'est passé. Mais quand le dictateur est parti, avant de partir, il a été très très drôle, il a d'abord fait exécuter et limoger une grande partie des gens qui étaient à la tête de la police au Yémen et à la tête de l'armée. Donc en fait, il a laissé un pays totalement laissé livrer à lui-même. Donc là, il y a une partie d'une milice chiite qui s'appelle les Houthis qui a décidé en fait du coup de profiter du moment qui était laissé pour prendre le pouvoir au Yémen. Donc ils sont partis du nord-ouest du Yémen, donc pile en face de Djibouti, et ils ont commencé à descendre jusqu'à la capitale, puis ils voulaient avoir Aden, qui est la deuxième grande ville du Yémen, et surtout c'est le plus grand port de la région, donc c'est bien d'avoir le plus grand port de la région. Donc voilà, donc ça c'est parti dans ce sens-là, mais entre-temps, Abdé Rabo Mansour Hadi, qui avait été élu en 2012, alors lui à la légale, hein, très clairement, il a été élu par les urnes, et même les observateurs internationaux ont reconnu que l'élection n'était pas entachée de trop de fraudes, il y en a eu quelques-unes, mais très peu, ce qui était à la sortie d'une dictature un grand pas, voilà. Et lui, en fait, il a essayé quand même de résister, donc il a une partie des forces loyalistes, comme on dit dans ce cas-là, qui sont à ses côtés et qui luttent contre les forces fidèles à l'ex-dictateur Ali Abdallah Saleh et aux Houthis. Alors il faut savoir que les Houthis et Ali Abdallah Saleh se sont combattus pendant 30 ans, mais que là ils viennent de s'allier parce que finalement ils se sont dit c'est plus cool, on va reprendre le pouvoir à la dure. Donc voilà, donc les forces qui sont fidèles à l'ancien dictateur et les Houthis sont un peu alliés. Donc voilà pour ce qui se passe au Yémen depuis 2014. Sauf que le Yémen a un grand voisin qui est l'Arabie Saoudite.
Depuis 2011.
Depuis 2012. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que c'est en 2014 que ça a vraiment monté d'un cran et que là, on a une vraie guerre civile, malheureusement, qui se déclenche dans le pays. Oui, je suis allé un peu vite. Donc voilà, donc en 2014, la guerre civile entre deux parties du Yémen, c'est-à-dire celle qui est située au nord-ouest et le reste du pays, se déclenche clairement entre, en gros, ceux qui veulent préserver l'acquis démocratique obtenu par la révolution de 2012, et ceux qui ont envie de se dire que c'était qu'une petite parenthèse, serait bien qu'on la referme. Alors le problème dans ces cas-là, c'est quand vous avez un grand voisin. Parce que le grand voisin, c'est l'Arabie Saoudite. Bon, alors on a connu plus démocratique comme grand voisin, hein. Et l'Arabie Saoudite, elle se dit... Alors, deux choses. La première, c'est que le Yémen, ça l'emmerde grandement si ça devient démocratique, quand même. Hein, parce que ce serait un petit peu un exemple qui irait pas trop dans le sens de sa politique. Et la deuxième chose, c'est qu'elle verrait bien le Yémen comme une espèce d'endroit où on pourrait laisser de la place aux djihadistes qui l'enquiquinent un peu. Vous savez, Al-Qaïda au Maghreb islamique ou Al-Qaïda dans la péninsule arabique, et puis l'État islamique. Parce que finalement, le Yémen, il n'y a pas grand-chose, c'est un grand désert, donc... Il pourrait peut-être s'installer là, quoi. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Donc l'Arabie Saoudite, elle joue un double jeu depuis un certain nombre d'années. Et en 2015, elle décide de réunir une grande coalition de pays musulmans sunnites, parce que je vous rappelle que l'Arabie Saoudite est sunnite, et wahhabiste, mais c'est une branche du sunnisme. Et donc, du coup, elle réunit ces pays musulmans, plus les États-Unis, pour aller prêter main forte, officiellement, à Abd Rabo Mansour Hadi, qui est le président élu. Mais on se rend vite compte qu'en fait, elle ne tient pas vraiment compte de ce qu'il dit, lui. Hein. Parce que lui, il dit non, mais il ne faut pas bombarder tel endroit. Bon, on s'en fout, on bombarde, vous voyez. Donc, non, en fait, en gros, elle prend clairement le pas et elle se substitue, l'Arabie Saoudite, aux forces, entre guillemets, libres qui étaient présentes sur le territoire du Yémen. Ce qui est un peu bizarre, c'est que la communauté internationale va reconnaître cette coalition et va lui donner une sorte de mandat à demi-mot à l'ONU. Bah oui, quand on a les Américains dans une coalition, souvent on a un mandat. C'est un peu le côté pratique. Juste quand même pour vous expliquer, c'est que j'étais très content de voir que les gens étaient horrifiés par ce qui se passait à Alep. Ben, en fait, ce qui se passe sur Sanaa, c'est la capitale, c'est 5 fois Alep. Hein, vous voyez, donc c'est juste pour que vous vous rendiez compte. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, à une période, il tombait une bombe toutes les 8 secondes.
J'avais calculé, ça faisait 10 800 bombes par jour.
Voilà, donc c'est juste, imaginez, 10 800 bombes par jour. Hein. Donc une bombe toutes les 8 secondes tombait sur la région. Alors là, ils ont un petit peu arrêté de bombarder parce qu'il y a des petits pourparlers de paix qui sont un petit peu mis en place. En fait, c'est pas vraiment des pourparlers de paix, c'est surtout qu'en fait, l'Arabie Saoudite préfère aujourd'hui laisser les troupes au sol continuer à avancer pour après retourner bombarder. Donc on est vraiment dans de la stratégie militaire et pas du tout dans la stratégie de paix. C'est ce qui se passait. Et alors, juste pour la petite histoire, le Yémen n'a que 4% de terres arables. pour nourrir 24,41 millions d'habitants. Et elle importait déjà, avant la guerre civile, 70% de ce qui était consommé au Yémen était importé. Et oui, parce qu'en fait, comme c'était un endroit où il y avait un port, c'était facile d'avoir, de faire de l'importation. Le problème, c'est que le port aujourd'hui d'Aden, il est quasiment fermé, parce qu'à cause de la guerre civile, il se passe plus grand-chose, et une énorme famine s'est déclenchée au Yémen. Alors je vais vous donner un autre chiffre, mais qui ne fait pas rire du tout. Aujourd'hui au Yémen, un enfant meurt toutes les 10 minutes. Voilà. Alors, soit de faim, soit sous une bombe, soit massacré par une armée, une des deux belligérants. Mais un enfant meurt toutes les 10 minutes. C'est les chiffres de l'UNICEF, hein, donc c'est pas des chiffres qui sortent du chapeau. Ils sont confirmés par Médecins Sans Frontières et confirmés aussi par l'HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés. Donc on a quand même trois sources concordantes qui donnent ce chiffre et c'est quand même assez impressionnant parce que ça veut dire en gros, hein, c'est ce que l'UNICEF dit, si ça dure pendant un an, le Yémen va perdre une génération. Voilà, c'est ça concrètement que ça veut dire, donc pour qu'on se rende compte de l'ampleur du massacre et de la faim et ce que ça représente. Alors l'Arabie Saoudite essaye de dire, mais non, mais nous on va faire ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Donc elle a un petit peu envoyé, soi-disant, des sacs de nourriture par avion, vous savez, le fameux largage. Voilà. Sauf qu'on a découvert assez vite qu'en fait, elle ravitaillait, mais pas vraiment les bonnes personnes. C'est-à-dire qu'elle ravitaille pas les villes où les gens crèvent de faim. Non, en fait, elle ravitaille l'endroit où se trouve l'État islamique et Al-Qaïda, la péninsule arabique. C'est un peu un double jeu. Alors, l'Arabie Saoudite, parce que ça s'est vu, donc elle a dit non, mais en fait, je me suis un peu planté. On n'avait pas les bonnes trucs géostratégiques, là, vous savez, le bon GPS. Promis, la prochaine fois, je ferai mieux. Voilà. C'est super hein, comme excuse. Hein, ouais,
c'est une très belle excuse.
On s'accroche. Et en fait, en réalité, on a découvert assez vite qu'en fait l'Arabie Saoudite a une volonté très claire de faire du Yémen un pays sunnite, donc de massacrer les chiites qui sont présents. Ce qui fait que l'Iran est rentré dans la danse pour dire « moi je vais soutenir les chiites ». Vous savez que l'Iran est chiite. Donc ils ont armé les Houthis. Voilà. Le seul problème, c'est qu'en fait, les Iraniens, ils se sont rendus compte que les Houthis, c'était pas des chiites comme eux, donc ça leur va pas trop. Oui, parce qu'il y a aussi des sous-branches dans le chiisme et des sous-branches chez les sunnites. Donc, ils les aident sans vraiment les aider, mais du coup, ils viennent plus à aider aujourd'hui Ali Abdallah Saleh, l'ancien dictateur, que les Houthis. Donc, vous voyez, c'est un petit peu un tambouille international. Mais en fait, ce qui compte de retenir, c'est que 70% de la population crève la dalle, hein, aujourd'hui, que, un enfant meurt toutes les 10 minutes, globalement de la faim, et ces 70% de population pourraient, c'est ce que dit l'ONU, être contrainte demain, soit à l'exil, mais ce qui va être très compliqué, parce qu'en fait, comme la guerre civile est concentrée sur les deux endroits qui permettent de sortir du Yémen, c'est-à-dire Sanaa, le nord-ouest, et Aden, le port, c'est un peu compliqué pour s'enfuir, voilà, et que l'Arabie Saoudite a fermé sa frontière, donc vous ne passerez pas par l'Arabie Saoudite, hein, donc voilà. Et soit à l'exil, soit en fait à mourir. Très clairement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre porte de sortie vu qu'il n'y a plus de nourriture qui arrive. C'est pas compliqué, c'est qu'en fait au Yémen aujourd'hui, vous avez 70% de la population qui potentiellement pourrait être amenée à mourir de faim dans les mois qui viennent. Ça paraît énorme quand on dit ça et surréaliste parce que je vous rappelle qu'on parle de 24,4 millions de personnes hein, au départ. Mais voilà.
Mais j'y pense maintenant, hein, mais ça me rappelle la crise de la pomme de terre en Irlande finalement les catholiques essayaient d'affamer les protestants.
C'est toujours le même système.
Ou une Saint-Barthélemy
en fait.
Musulmane. Ouais. C'est un massacre. Mais sous couvert de religion, il y a d'abord des intérêts économiques.
Évidemment. Parce qu'on va rappeler que le Yémen est pauvre. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le seul endroit dans la région où ils n'ont pas trouvé de pétrole. Enfin, ils ont trouvé un tout petit peu dans le nord, mais c'était du pétrole lourd, pas très efficace et très cher à vendre, donc en fait ils n'ont pas une grosse manne pétrolière, donc en fait le Yémen n'intéresse que pour une chose, c'est le fameux détroit qui se trouve au bord du Yémen, entre Djibouti et le Yémen, et le port d'Aden. En fait c'est les deux choses que veulent récupérer très clairement l'Arabie Saoudite, et surtout ce qu'ils veulent éviter, c'est en fait l'Arabie Saoudite et l'Iran aimeraient avoir le Yémen pour deux raisons à peu près les mêmes. L'Iran pour installer le chiisme entre les deux côtés de l'Arabie Saoudite, l'Iran au-dessus, le Yémen en dessous, et l'Arabie Saoudite pour s'éviter qu'il y ait une passerelle chiite, comme ils disent, entre eux et voilà. En fait, c'est de la géostratégie entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Vous avez donc compris que cette région-là ne sert que de guerre déplacée, comme on dit, c'est-à-dire qu'on se tape pas sur le groin entre nous, mais on se tape sur le groin sur une région un peu neutre comme ça, mais où on peut taper à fond parce que de toute façon nous on s'en fout. Vous voyez, c'est pas chez nous donc on peut y aller. Donc c'est horrible, hein, mais je dis ça avec un ton un peu cynique parce que à un moment donné je me rends compte que c'est très bien que les gens et que les médias parlent d'Alep. Je trouve ça très très bien. Sauf que j'aimerais bien qu'on fasse la même chose au Yémen. J'aimerais bien qu'on fasse la même chose sur le Nord Kivu, sur plein d'endroits comme ça, où en fait, eh ben, on fait comme si ça n'existait pas. Donc je vais quand même rappeler deux, trois petites choses. C'est que vous pouvez aider, vous, malgré tout. Parce que quand même, hein, c'est un peu l'idée de la causerie. C'est pas d'être toujours à dire « Ouh, c'est très mal », mais de dire « On peut faire des trucs ». Alors déjà, la première chose que vous pouvez faire, bah, c'est déjà écrire. Alors ça paraît très bête, mais vous pouvez écrire à vos députés. Vous pouvez écrire à vos... Voilà. Alors, moi, je suis pas très très fan de ces trucs-là, mais sauf qu'à un moment donné, c'est bien un petit peu de rescouer un peu de dire pourquoi la France ne prend pas position sur ce qui se passe au Yémen. Voilà.
Surtout que c'est pas comme si on était totalement blanc dans
Alors,
cette histoire.
Exactement, c'est là que je voulais venir, parce que je voulais juste rappeler que la France ne fait pas partie de la coalition. Par contre, la France est le premier fournisseur d'armes de l'Arabie Saoudite. Donc les bombes qui tombent aujourd'hui au Yémen, globalement, elles sont made in France. Vous êtes content? Je pense qu'Arnaud Montebourg va être content. Ou d'autres, hein, Benoît Hamon et compagnie. Mais ça, c'est du made in France, vous voyez, c'est un truc très très bien. Donc, alors en fait, c'est horrible hein, quand même de se dire ça, mais le fameux très bon chiffre sur l'armement de 2016... Hein, vous avez vu, hein, on s'est félicité qu'on n'avait jamais vendu autant d'armes que cette année, vient du fait qu'en fait nous fournissons l'armement en grande partie à l'Arabie Saoudite pour aller bombarder le Yémen. Ça ne me rend pas joyeux hein, du tout, mais par exemple c'est le genre de truc qu'on peut faire. On peut aussi lancer des grands mouvements contre la guerre, vous voyez, ça ferait revenir un petit peu aux fondamentaux. On peut aussi lancer des grands mouvements contre l'armement, ce serait bien. Et puis surtout, ben, on peut en parler. Parce que très bêtement, en fait, quand les gens sont pas au courant, bah, ils savent pas. Et quand ils savent pas, ils ont l'impression qu'il se passe rien. Et là, on est vraiment dans le cadre d'une guerre qui se passe à huis clos. Une des grandes raisons, c'est que l'ancien dictateur avait fait flinguer la plupart des journalistes. Et donc, quand on n'a pas de journalistes sur place, c'est très compliqué de faire sortir de l'information. Comme quoi, hein, même avec les réseaux sociaux ou autres, bah, c'est pas aussi simple que ça. Parce que il faut avoir des réseaux journalistiques, des fois, pour sortir de l'info.
Mais est-ce que quelque part il n'y a pas une volonté aussi de ne pas voir, sachant que Djibouti est face
oui,
à...
pour la France clairement, on n'est voilà. pas rentré dans la coalition parce que Djibouti en face du Yémen et que tout le monde a dû se dire là-haut à l'Elysée, on va pas se foutre dans la merde. C'est le truc très clairement, non on vend les armes, c'est tout. Voilà. Et juste le deuxième chose, si vous voulez aider, les trois associations qui sont présentes sur place et que je vous invite à soutenir si vous voulez tenter de les aider, c'est Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde et Human Rights Watch, qui sont donc tous les trois sur place aujourd'hui. Et donc vous pouvez, bah, si vous voulez, ne serait-ce que en faisant des dons, en aidant un petit peu à envoyer des trucs, voilà, ça peut aider. Mais donc renseignez-vous sur ce qui se passe au Yémen. Il y a des articles qui existent, notamment dans le Courrier de l'Atlas ou des choses comme ça. On trouve de l'info, il faut creuser, mais voilà, ne les laissez pas tout seuls. C'est tout ce que je voulais dire ce soir.
Et quoi qu'il arrive, hein, je me dis en écoutant ta chronique que de toute manière, par exemple quand l'Arabie Saoudite dit « Oh non, je suis désolée, je me suis trompée, j'ai pas largué le bon paquet au bon endroit », c'est surtout parce qu'ils se sont fait voir. Donc je pense que c'est oui. très très important de montrer à des nations comme ça qu'on les voit.
C'est ça.
Mais pour aussi condamner l'ennemi, oui. j'aime pas parler comme ça, mais entre guillemets...
Non, mais condamner l'horreur. C'est-à-dire qu'à un moment Exactement. Donné, ne pas laisser faire comme si ça n'existait pas. Et je voulais juste finir sur un point, c'est que je ne l'ai pas dit, mais je l'ai sous-entendu. Je le redis, l'Arabie Saoudite trouve très cool de pouvoir placer au Yémen les gens qui l'embêtent chez elle, c'est-à-dire toutes les mouvances, on va dire terroristes, comme on dit aujourd'hui, mais j'aime pas cette notion-là, mais on va dire extrémistes et islamistes extrémistes. Et je vous rappelle juste comme ça que les attentats de l'Hypercacher et de Charlie Hebdo ont été revendiqués depuis le Yémen par une branche d'Al-Qaïda installée là-bas. Donc vous voyez, c'est pas des mecs très sympas, quoi. Voilà. Musique.
Just got real. Sandor, the fucking OG. Mary with the mad black, yeah. Subwoof in the trunk, kick it to the base. Now I got this fucking 38 sticking in my waist. So I pull out my gear and I leave it on my left. On the left side of town, now speeding to the left. Stop at the light round the corner from my pet. Who's this knocking on my window? Nigga pointing at my front wheel says I got a flat. My windows feel motherfucking black. So I can see him, but he can't see me back. He put a gun on my window and go tap, tap, tap. So I picked up the map black, yeah, on my lap. And I said, yo, Lundy, can you please leave back?
N'est pas la salade de fruits. Oui, pardon. Alors, vous êtes bien dans la causerie au 102.2 sur Radio Canu et on discutait pendant l'émission. Voilà. Et pendant la musique. Et la musique, c'était Shit Just Got Real de Diane Wurt sur leur nouvel album que je vous conseille, qui est très très étonnant par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Donc voilà, foncez, c'est très bon. On continue cette émission avec un sujet qui n'a rien à voir avec le premier, comme souvent dans la causerie, mais quand même. Qui peut un petit lien, voilà. Donc Stan, tu voulais nous parler de quoi ? De marketing politique, je crois, c'est ça. Hein.
Alors en fait, je vais parler de marketing politique, mais je vais surtout faire la pub pour une chaîne YouTube qui est extraordinaire, merveilleuse, incroyable, que je conseille à tous.
Alors Lyon, tout ça.
Voilà. Elle s'appelle Datagueule, donc elle est assez connue, mais pas tant que ça. Moi, je rate beaucoup les chiffres de tout ça, et 200 000 vues par vidéo, c'est pas énorme. Et donc là, je vais faire un énorme plagiat total et absolu de leur dernière vidéo. C'est juste pour vous montrer un peu ce qu'ils font, etc. Et je vous conseille surtout d'aller voir. Voilà. Et donc sur leur dernière émission, qui date de lundi dernier, il me semble.
Du 16 janvier.
16 janvier, voilà, merci. Donc du 16 janvier, titre marketing politique, démocrat ciblé. Très bien.
Quel bon jeu de mots.
Oui, quel bon jeu de mots. Voilà. Donc, bon, on parle du marketing politique, mais bien entendu, ça ne date pas d'hier. On donne quelques exemples. 28 juin 1820, il y a une circulaire qui recommande au préfet de classer les électeurs par opinion politique, dans le but justement de permettre au ministre de l'Intérieur de l'époque de commencer à identifier les votes à venir et commencer à classer tous ces gens, en fait. C'est plus des individualités, on essaie de nous regrouper. Donc le marketing politique, ça existe depuis vraiment, vraiment toujours. Ça se démocratise véritablement dans les années 1930 aux États-Unis, et plus particulièrement le 4 novembre 1952, avec l'élection du 34e président des États-Unis, David Dwight Ike Eisenhower. Donc pourquoi par lui ? C'est parce que lui, il a réussi avec l'aide d'une agence publicitaire, BBDO. Donc là, quand on a une agence publicitaire, il y a tout ce qui se met en place qui est autour, c'est-à-dire enquête d'opinion pour connaître les sujets porteurs, les spots télé qui sont différents suivant les états. Tu disais que sur les portraits...
Ouais, c'est le premier qui avait fait des portraits stylisés. c'est-à-dire un portrait avec des slogans stylisés. Alors qu'avant, on mettait le portrait avec juste le nom du gars en dessous. Ouais, c'est le côté marketing. Quoi.
Mais de toute façon, voilà, c'est tout le savoir-faire d'une agence marketing qui est là pour vendre un produit. Donc là, AI. Mais qui est donc voilà, qui ne voit plus des électeurs, mais des consommateurs, et qui ne voit plus un homme politique, mais un produit. Donc on a vraiment changé la donne quelque part. On change les discours, ça devient des propositions de vente. Donc c'est un argumentaire pour vous convaincre de quelque chose. C'est pas une réflexion par rapport à un sujet, c'est qu'on va réussir à vous convaincre de pourquoi est-ce qu'il faut adhérer à ça. En 1965, en France, on a De Gaulle contre Mitterrand, et ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un qui va créer la surprise, qui s'appelle Jean Le Canuet, qui passe de 4% d'intention de vote à quasiment 16%, et uniquement grâce à l'aide d'un publicitaire, enfin pas uniquement, mais grâce à l'aide d'un publicitaire, Michel Bongrand, et qui sera d'ailleurs récupéré quelques années plus tard par De Gaulle dans ses équipes, parce que il a fait du très très bon travail marketing. Donc il y a toujours de ça, on est des consommateurs, enfin on devient les consommateurs d'un produit politique. Je vais continuer d'en reprendre totalement donc, les termes de data gueule. Ça c'était avant le big data. Le big data c'est maintenant, c'est des c'est des grosses bases de données. Donc il y a les quatre plus gros data brokers du monde, Experian, Epsilon, Axiom et Equifax. Donc leur travail c'est d'acheter un maximum d'informations, de bases de données, donc d'informations sur vous.
Mais à qui ils les achètent?
Mais à tout le monde, bien entendu, à l'INSEE, à France Télécom, à des magasins, enfin, magasins physiques, magasins en ligne. Bien entendu, hein, quand vous prenez une carte fidélité quelque part, souvent, vous êtes listé et ça va être revendu. C'est une vraie manne financière, en fait, c'est important. Et le but est d'en faire la plus grosse base de données. La plus grosse, elle s'appelle Mosaic, donc c'est le fichier de Experian. C'est 1 milliard de personnes dans le monde. 95% de la population française, 26 millions de ménages, rangés par groupe et par sous-groupe. Il y a une catégorie, il y a un petit sous-groupe qui s'appelle Accro-Crédit Technophile, qui est rangé dans le groupe Jeune Famille Active. Voilà, donc là même autour de la table, qui est-ce qui est rangé dans quel sous-groupe, tout ça.
Il y a longtemps que je suis plus jeune.
Il y a longtemps que je suis plus active.
En 2005, il y a les équipes de Nicolas Sarkozy qui préparent la présidentielle et qui font. Là aussi, on est toujours dans du marketing, on va continuer à optimiser tout ça. Et donc, il fait toute la campagne de mailing. Donc là, c'est pas nouveau, hein, ça fait longtemps que ça existe. Mais là, elle est vraiment extrêmement ciblée, elle est bien faite. Et d'ailleurs, d'un point de vue marketing, purement marketing, elle est extrêmement bien réussie. Vu qu'on passe d'un taux d'ouverture moyen sur les élections précédentes de 30% à un taux d'ouverture de 50%. Donc c'est un ciblage extrêmement bien fait, ça parle aux bonnes personnes. Des demandes de dons, d'invitations à des débats, enfin plein de bonnes choses. Mais là encore, on vous parle de ce que vous voulez entendre. Vu qu'on vous a ciblé, on sait qui vous êtes. On ne va pas vous parler de ce qui vous dérange.
Ça veut dire que le mailing n'était pas le même en fonction des gens à qui c'était
bien
envoyé.
Entendu.
Le contenu, hein, je veux dire.
Oui, le contenu est personnalisé. Alors on personnalise déjà avec nom, prénom et toutes ces informations personnelles pour vous dire on s'intéresse à vous, regardez, on vous connaît. Mais après, on va vous parler vraiment de ce qui vous parle par rapport à vos achats, par rapport à ce qu'on a dit avant, de votre manière de vivre. Aux États-Unis, les années 2008, il y a les équipes d'Obama qui ont dépensé 30 millions de dollars rien que pour renforcer leur fichier. Leur fichier, c'est Catalyst. C'est une base de données de 220 millions d'Américains qui contient jusqu'à 600 informations par personne. Donc là, on a adresse, âge, sexe, tendance religieuse, politique, sexuelle.
Tu veux dire que le gentil Obama, il avait les mêmes méthodes que le méchant Trump?
Mais quoi, bien. Mais tous.
Arrête de casser les rêves des gens comme ça, c'est mal.
Et donc, on utilise ça pour tous, et pour les plus récalcitrants, il suffit maintenant après de frapper chez eux avec l'argumentaire qui est préformaté, sorti de la base de données, et qui correspond totalement à la cible.
Attends, tu veux dire que les gens avaient
une tablette
avec la base de données?
Alors, je ne sais pas exactement.
Non, mais qui préchargeait ou n'importe quoi, mais ils allaient chez les gens avec une fiche.
Oui, c'était pour ça.
D'accord.
Oui.
Ah ouais, c'est énorme.
Avec quelque chose, et avec directement l'argumentaire qui correspond à la personne. En France, la CNIL, elle freine un petit peu la chose sur la croissance de données et cette utilisation. Elle reste assez laxiste.
C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'elle veille même en période électorale?
En période électorale, elle se relâche un petit peu. Elle va en vacances. Elle est un petit peu plus laxiste. On parlait justement pour Obama qui s'arrivait avec l'argumentaire. Pour les primaires de 2016, donc de Sarkozy, il a utilisé une application qui s'appelle Knocking. Et ses équipes, en fait, avaient juste à mettre le nom et le prénom de la personne. Et ça récupérait qu'est-ce qu'il fallait lui dire, avec tout l'argumentaire qui en défile. Avec en plus, il y a toutes les bases de données, mais en plus, vu qu'on est dans une magnifique époque, on donne beaucoup trop d'informations sur les réseaux sociaux en plus. Donc on atteint un niveau de, d'identification qui devient extrême en fait.
Pas juste comme ça, mais ça veut dire comme on passe aussi par les réseaux sociaux, c'est-à-dire par exemple la personne qui vient chez vous, elle peut commencer à discuter en sachant que en sous-tâche, elle sait que vous aimez les chats et que vous adorez voyager. Et donc du coup, dans la conversation, elle oriente sa conversation vers le « Ah, vous avez un chat, mais moi aussi j'adore les chats » et hop, on vous accroche sur des choses qu'on sait par ces bases de données en fait.
Voilà, alors il faut bien toujours se dire, bon, il y a plein de niveaux, etc., il y a plein de choses, mais si vous êtes avec votre nom, prénom, une personne identifiable facilement sur les réseaux sociaux, vous êtes dans le fichier là-dessus aussi.
Mais je me dis, s'ils récupèrent les données, notamment dans des organismes étatiques comme l'INSEE, donc ils doivent aussi recouper les informations des services de police, de notaire, tout ça. Et donc, un truc tout bête auquel je pense depuis qu'on a abordé ce sujet en prépa, c'est que je me dis, voilà, argumentaire de campagne légalisation du cannabis, toutes les personnes qui sont fichées pour consommation, mais finalement, c'est très facile d'aller les voir en leur disant...
De les cibler, oui.
Exactement. Ouais. Donc ça veut dire qu'on peut même partir quelque part des... Voilà, des erreurs, des... Enfin, c'est pire que ça, c'est
on
d'aller...
Peut, on peut partir, en fait, de la loi répressive pour s'en servir comme argument de campagne pour avoir les voix de quelqu'un.
Pour récupérer des gens.
C'est merveilleux, quand même.
C'est fantastique.
Ça permet de récupérer des gens qui, justement, s'est trouvé un argument. Tout le reste de la proposition politique ne convient pas, mais on a trouvé le petit argument qui a... Ça va lui parler à lui.
Lui au moins, il fera ça. Quoi.
Voilà.
Ouais. Ou pareil pour les auto-entrepreneurs à qui on va promettre.
Ok.
Voilà. Donc, pour les primaires de 2016, c'est à droite, donc c'est Fillon qui a gagné, mais il avait sûrement une base de données équivalente. Et d'ailleurs, est-ce que vous voulez un petit point commun entre Fillon, Trump et Mélenchon?
Ah oui.
Ah oui. Ils utilisent la même base de données. Elle s'appelle Nation Builder. Et juste le nom, il est flippant.
Bah ouais, juste le nom il fait peur quoi.
Constructeur de nation, c'est génial.
Mais moi ce qui me surprend quand même, enfin pas dans le fait que cela existe, hein, mais c'est que des gens qui finalement se présentent comme anti-système, que ce soit Trump ou Mélenchon, finalement utilisent ce qu'il y a de pire dans le système, une base de données de big data. Oui. Mais c'est à un moment donné, c'est surréaliste, c'est-à-dire que tu peux pas condamner un truc en disant ils nous fichent tous, machin, le capitalisme c'est mal, blablabli, blablabla, et puis de l'autre côté utiliser ce que le capitalisme a fait de pire, c'est-à-dire le fichage généralisé façon Stasi de tous les êtres humains, quoi. Donc voilà, enfin, éthiquement parlant, c'est un peu gênant.
C'est plus que gênant, mais bon. Je vais utiliser, parce qu'encore une fois, donc je plagie totalement une chaîne YouTube qui s'appelle DataGueule. Donc le but maintenant, c'est de rationaliser les campagnes électorales. On ne vous présente plus un programme, on tente de vous présenter un parti politique qui vous parle le plus, mais en occultant au maximum tout le reste. Mm-hmm. On va vraiment vous présenter juste la partie du programme qui peut vous plaire. On va vraiment pas vous parler de ce qui... Non.
Ce qui pourrait vous gêner, quoi.
Et donc voilà. Donc de plus, en appliquant ces méthodes de micro-ciblage, Cela en plus, je cite mot à mot la toute fin de DataGueule. Donc de plus, en appliquant ces nouvelles méthodes de micro-ciblage au débat démocratique, on pourrait bien risquer de blesser profondément nos sociétés.
Mais même. Ça vous fait pas penser à Big Brother ?
Oui, mais c'est le principe.
C'est totalement Big Brother.
Voilà, donc on est en train d'arriver dans une dictature camouflée, enfin une dictature molle, depuis des années déjà, et je sais pas, ça gêne personne, on dirait.
Même moi, ce que je trouve flippant, je leur dis, c'est que des gens qui se disent anti-système, que ce soit Trump ou Mélenchon, finalement utilisent ce qu'il y a de pire dans le système, c'est-à-dire une base de données de fichage, quoi. Et ça, c'est quand même, ça m'interroge beaucoup sur l'éthique de ces personnes. Bah bon, de Trump, j'avais pas trop de doutes, Mélenchon non plus, remarquez, mais voilà. Mais bref, non, mais c'est, d'un point de vue éthique, c'est hyper questionnant, quoi. Et donc ça t'y tire de DataGueule.
Ça s'appelle DataGueule, ça a démarré le 30 mai 2014, il y a 68 émissions. Là, je viens de vous refaire en gros la vidéo donc, du 16 janvier sur le marketing politique. L'intégralité des sources sont en dessous des vidéos aussi, dans la description à chaque fois. C'est extrêmement bien détaillé, documenté. Donc là, bon, j'ai vraiment repris une partie du contenu. C'est extrêmement intéressant, c'est très dynamique, c'est très bien illustré, ça parle de plein de choses, ça, l'état d'urgence, la déforestation, le modèle allemand, neutralité sur internet, aluminium, le dopage, la vie privée, bref, plein de choses. Depuis peu aussi, depuis une quinzaine d'émissions, après la vidéo, il y a une interview de plusieurs minutes d'une personne, donc pour compléter le débat, pour avoir une réflexion dessus. Sur celle dont je viens de vous faire, vous trouverez en deuxième partie la réflexion d'Antoinette Rouvreau, Rouvray, je ne sais plus, qui est chercheuse en philosophie du droit au Centre de recherche d'information droit et société à l'Université de Namur. Voilà, donc c'est toujours intéressant d'avoir en plus une deuxième partie, vraiment de réflexion.
Et donc, on la trouve où, cette chaîne ?
Sur YouTube, ouais. Taper DataGueule.
Et DataGueule, ça s'écrit D-A-T-A et plus loin gueule.
Exactement.
Est-ce qu'éventuellement, on pourra mettre le lien de cette vidéo sur le blog ?
Oui. Mon but, c'est vraiment de les faire connaître très très bien.
Ce sera fait.
Parfait.
Non mais alors, moi je trouve intéressant, et pour revenir au sujet donc, que tu développais au travers, ce que je trouve vraiment bien, c'est que finalement, l'information, contrairement à ce que beaucoup de complotistes disent, on l'a. C'est-à-dire qu'on peut savoir que les big data existent, on peut savoir quelle est la société qui l'utilise, on peut même du coup savoir qui s'en sert, parce que bon, finalement, on arrive à... Et qu'il faut arrêter avec ce côté, on nous cache tout, c'est pas vrai. En fait, non, c'est juste que souvent, on va pas chercher l'info, et qu'en fait, elle existe. Une preuve, c'est qu'une chaîne YouTube, qui en plus, je le dis, était un petit peu reliée à France 4 à une époque, oui. Arrive à faire un travail journalistique de base, c'est-à-dire vous dire, voilà, qui utilise ce genre de base de données autour de vous, dans le monde. Et voilà, donc faut arrêter avec le côté l'information, tout est caché, tout est machin. Non, c'est que souvent, en fait, on s'en fout et qu'on va pas chercher. Oui, j'étais à mon côté. Ouais.
Je peux faire une lapalissade ?
Oui.
Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir.
C'est beau. Oh. C'était pour introduire la musique ?
Peut-être.
Oui. C'est bon pour moi.
Eh ben, allez. Alors, on y va.
Musique.
D'écouter, donc No One is Innocent, La Peau.
Et c'est dans quelle émission ?
Ah, je sais plus.
La Causerie 102.2, Radio Canut, tous les dimanches.
22-23.
Et Jonathan, tu voulais nous parler du SAMU social, mais au travers d'une action qu'ils ont menée, qui n'est pas celle qu'on imaginerait.
C'est ça. En fait, tout tout a commencé par un soir du mois de janvier 2017 où je me baladais dans la nuit et je me suis dit putain, qu'est-ce qui fait froid dans ce pays.
On rappelle que tu viens du sud.
Ah oui, je viens du sud à la base. Et vraiment, et tout à fait, et de Marseille d'ailleurs. Et donc oui, en effet, ça me surprend. Quelques années à Lyon, il y a des grands froids de montagne comme ça. Et je ne peux pas m'empêcher de penser dans ces moments-là, comment font les personnes qui vivent dehors. Alors c'est une question sûrement plein de gens se posent, ou pas. Ça dépend de sa conscience, des gens qui sont autour de nous. Et du coup, je me suis dit, bon, il existe de toute manière des organismes qui s'occupent des personnes en difficulté dans ces moments-là, mais comment ça marche réellement? Et surtout, donc le 15 janvier, il y a eu une action du SAMU social qui a été reliée par les médias, mais finalement très peu par rapport à l'impact que ça a réellement, je trouve, qui a été une grève. Une grève dont le slogan est « Le refus d'être le complice silencieux de la détresse qui est observée chaque jour ». Alors, pourquoi j'en parle? D'abord, commençons par qu'est-ce que le SAMU social? Donc le SAMU social, rapidement, c'est un organisme qui est dérivé de la Croix-Rouge française, donc on peut les joindre au 115. C'est constitué d'un ensemble d'associations non gouvernementales, donc ce n'est pas une institution, ce n'est pas un organisme de l'État, c'est un ensemble d'associations qui viennent en aide aux plus démunis. Et c'est une au niveau national, il y a la Fédération nationale des SAMU sociaux, et au niveau international, pareil, une fédération internationale. Le premier SAMU social a été créé à Paris en 1993, donc c'est très très récent, par le docteur Xavier Emmanuelli, donc en réponse finalement aux besoins des personnes qui étaient de plus en plus présentes dans les rues sans logement. Hein, donc on parle de SDF, de sans domicile fixe ou de personnes non logées. Et finalement, ça résulte d'une nécessité. À Lyon, il y a une association d'insertion sociale qui participe au SAMU social de Lyon, qui s'appelle Alinéa avec un Y, hein, pas comme le magasin de meubles, que vous pouvez retrouver sur alinéa.org, sur internet, et qui participe au renfort hivernal, parce que le SAMU social à Lyon, c'est seulement 11 permanents et 9 renforts. Ça fait des petits chiffres finalement pour un organisme qui doit traiter 1600 personnes à la rue cette année. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Et donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi les personnels du SAMU social et surtout le collectif des professionnels de l'urgence sociale a posé une grève, enfin un préavis puis une grève, et puis risque de la reporter également? Parce que voilà. Déjà, ils sont en sous-nombre. Il y a aussi une hypocrisie. Donc voilà, ce qui doit être reconnu selon eux, c'est aussi l'hypocrisie de l'État vis-à-vis de la situation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on débloque 400 places pour 1600 personnes, c'est du foutage de gueule.
Voilà. C'est ce qui s'est passé sur Lyon.
C'est exactement ce qui s'est passé sur Lyon. C'est ce qui a déclenché cette grève, enfin, selon les informations que j'ai obtenues. Et voilà. Et on sait qu'il y a des moyens d'avoir plus de places d'hébergement d'urgence en réquisitionnant des locaux publics. Donc on ne parle même pas de locaux abandonnés d'entreprises ou de locaux privés dont on aurait... Non, simplement de locaux publics, type anciens locaux de la SNCF ou ce genre de choses. Je ne sais pas exactement en détail, mais dans tous les cas, on sait qu'ils existent. Et on sait aussi que pour diverses raisons que les autorités vont invoquer, à savoir l'insalubrité, la viabilité du bâtiment, etc., ils ne seront pas ouverts. Mais ce sont que des prétextes fallacieux, parce que finalement, faire dormir 140 personnes dans un gymnase, c'est pas non plus les conditions les plus idéales de vie. Hein.
C'est clair, et puis en plus, l'insalubrité, entre quelqu'un qui vit à la rue ou quelqu'un qui vit chauffé dans un lieu, même s'il n'est pas totalement viable, il a un peu plus de chances de survie dans le lieu pas totalement viable qu'à la rue. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réhabiliter les lieux, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais que dans l'urgence, c'est quand même mieux d'avoir chaud déjà au départ. Ouais. C'est la première étape, quoi.
Exactement. Et puis surtout, on en a la possibilité. Pourquoi ce n'est pas fait? Bon, pourquoi ce n'est pas fait? Parce que c'est toujours la même chose, hein, le déploiement des efforts collectifs pour une minorité qu'on préférerait ne pas voir est toujours très difficile.
Bah, oui.
Et pourquoi je dis minorité qu'on préférerait ne pas voir? Parce que voilà, il y a cette question aussi qui apparaît là, c'est que finalement, le SAMU social nous permet à nous, bons petits citoyens qui avons chacun notre chez nous, bien chauffé, etc., de ne pas penser aux personnes qui sont dehors. De pas se poser la question, par moins 7, qu'est-ce qu'ils font ? Non, tant mieux, il y a le SAMU social. Sauf que si eux s'arrêtent, bah plus personne s'occupe de ces gens. Et donc là, je vois que deux solutions. Soit on les laisse crever, ce qui est très dur dit comme ça, mais qui est une réalité, parce que des gens qui meurent dans la rue, il y en a en France. Ouais, surtout l'hiver.
Plus de 500 par an. Hein.
Plus de 500 par an. Donc c'est une réalité, on laisse crever les gens, et voilà, il faut le dire comme ça à un moment donné.
Et on ne meurt pas que l'hiver.
On
meurt tout le temps.
Et on meurt toute l'année.
Ouais, y compris l'été, parce que les gens n'y pensent pas, ils se disent « Oh, c'est cool », mais sauf que l'été, bah, c'est pas plus cool que l'hiver. Hein. Vous savez, c'est, voilà, la vie dans la rue, c'est assez rude, point barre. Quoi.
Alors, et du coup, bref. Et l'autre solution, ce serait de nous concerner chacun individuellement pour son proche voisin, peut-être celui qui fait la manche en bas de chez nous, ou je ne sais quoi, et se poser vraiment la question de qu'est-ce qui lui arrive et qu'est-ce qui devient. Et pourquoi je dis ça ? Parce que j'aimerais répondre par avance à toutes ces personnes qui diraient « Oui, mais s'ils sont à la rue, c'est par choix, ou alors ils ont qu'à se bouger le cul parce que tu comprends, c'est des feignasses !» Non, stop. On arrête ce discours-là et on se pose une question, et je vous invite à aller voir des témoignages. Alors, je vais prendre une première interview que j'aime bien, qui est celle du Point, Le Point, un journal de droite, voilà, totalement capitaliste. Oui, il faut savoir se renseigner aussi chez l'ennemi. Pardon.
Oui, non, c'est bien dit.
Et donc, Le Point interview une personne SDF, et donc, dans le recueil, finalement, de l'interview, il y a plusieurs choses qui sont dites. Alors, notamment que la personne se plaint des conditions de logement, parce que c'est difficile, mais en même temps, on voit bien qu'il ressort qu'elle n'a pas tellement le choix. Et il y a cette forme toujours du discours de droite qui va être un petit peu de quelque part faire passer cette situation pour un choix, même si c'est un choix par défaut, un manque de motivation, etc.
Mais il y a l'exemple typique, par exemple, qu'on sait que beaucoup de gens qui sont à la rue ont des chiens. Bah, c'est ce qu'on appelle la dernière compagnie. Mmh. C'est-à-dire qu'on a un chien parce que bah, il n'y a plus que lui, en gros, qui s'intéresse à nous. C'est horrible, mais c'est un peu ça. Et en fait, la plupart des centres de logement refusent les chiens. Donc les gens disent, je ne vais pas mettre mon chien dehors parce qu'il va finir à la SPA. Et que voilà. Et c'est un exemple tout bête. C'est que, en fait, on a n'adapte pas à la situation des gens, et après on leur dit mais c'est ça ou rien. Donc, mais ça marche pas, ça veut dire, c'est horrible même de demander ce type de choix à une personne, quoi.
Mais c'est ça le problème. Et même encore, vu que tu es dans cet exemple, comme tu dis, c'est le dernier accompagnement entre guillemets, le chien. Donc il y a peut-être, alors déjà il y a ceux qui disent bah si t'as les moyens de nourrir un chien, pourquoi tu hein,
bon, ça, c'est
voilà,
débile,
c'est toujours le même, mais c'est cet argumentaire là qui me fout les boules, hein. Voilà, mais aussi c'est que quelque part il y a un vrai besoin d'accompagnement, et c'est là où je viens à quelque chose d'un peu plus profond. C'est que comment on se retrouve à la rue, on dit souvent on peut tous se retrouver à la rue, et puis à chaque fois nous dans notre fort intérieur on dit oui, les autres, pas moi. Sauf que je vous invite à aller voir donc un témoignage sur v2galzin.wordpress.com, qui est un blog qui est très bien fait, je mettrai le lien sur notre blog,
ouais.
Et qui explique comment un type lambda s'est retrouvé à la rue alors du jour au lendemain. Mais toujours, c'est pareil, et quand est-ce qu'on le voit venir et quand est-ce qu'on le voit pas venir ? C'est-à-dire que la situation se dégradait pour lui, mais tant qu'il y avait de l'espoir, tant qu'il n'était pas dehors, il y avait de l'espoir. Donc finalement, oui, c'est bien du jour au lendemain qu'on se retrouve expulsé de chez soi et obligé de vivre sous les ponts. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il faut savoir qu'on passe de l'autre côté du miroir, entre guillemets, c'est-à-dire d'un autre côté de la société, où on n'est plus considéré par les gens, entre guillemets, normaux, comme nous aussi des gens normaux, mais comme des rebuts, comme quelque part... des personnes qui n'ont pas le même intérêt ou pas la même valeur. Et ça se manifeste aussi, par exemple, quand il y a des personnes qui donnent de l'argent à un mendiant, qui ne le regardent même pas, qui ne le saluent même pas, ça montre bien cette forme de puissance sociale qui est, voilà, qui est exercée par le mépris d'autrui.
C'est comme si ça se donnait. C'est-à-dire, si on le voit, ça pourrait être nous. Vous voyez, c'est l'effet miroir. Alors on préfère l'ignorer, comme ça on se dit, nous, jamais ça nous arrivera, quoi.
Il y a de
c'est
ça.
Horrible, hein, parce
ah,
que
y a complètement
c'est vraiment un truc terrible, ça. Mais voilà, c'est comme les personnes atteintes de handicap. Je fais un parallèle un peu tordu, mais qui est une réalité. C'est quand quelqu'un rentre avec un fauteuil, il y a plein de gens qui évitent son regard. Comme si le fait, en fait, de voir quelqu'un en fauteuil ferait qu'on va se retrouver en fauteuil. Oui. Ben là, on se dit, oula, si on voit le SDF, on va se retrouver SDF.
C'est... Ou même, je pense que c'est pire que ça.
C'est du
que
mépris
si
aussi.
Si on ne le regarde pas, on n'est pas concerné, on peut l'oublier.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et quelque part, c'est ça aussi. Mais je pense que c'est ça qui détruit aussi quand on est dans la rue. C'est que, avant même que ce soit une question matérielle, c'est une question morale. Et en effet, quand on est rejeté, quand on est mis au banc de la société marginalisée, c'est très compliqué de se relever. C'est aussi très compliqué d'avoir des fréquentations qui vont entre guillemets, nous tirer vers le haut, puisque ben, on va rencontrer d'autres personnes dans la même situation que nous. Et il est alors très très facile, dans le désespoir, de sombrer dans des pratiques, donc, comme l'explique le témoignage, l'alcoolisme et ce genre de choses, qui, non, c'est une réalité, n'aide pas à s'en sortir.
Non, en fait, c'est de la survie.
C'est de la survie.
C'est un moyen d'oublier quand on est dans, au bas du bas, quoi. Je veux dire, d'ailleurs, ça me rappelle les gens qui donnent et qui disent attention, hein, n'allez pas boire avec ce que je vous donne. Mais franchement, mais c'est d'un mépris, cette phrase-là, mais elle est horrible, quoi. Je veux dire, et même si à la limite, le gars qui vous donnait, il boit, mais mettez-vous à sa place deux secondes. Je veux dire, il boit pas par plaisir, il boit parce qu'à un moment donné, vu la situation, il reste des fois plus que ça, quoi. Donc voilà.
C'est vrai que c'est pas forcément grande œnologie que de boire de la villageoise.
Ben non, mais c'est cette espèce d'image du gars qui serait content de sa situation, mais il faut arrêter de dire des conneries, quoi.
En fait, c'est ça. Et puis, il y a la fierté humaine, je pense, qui pousse aussi un discours des personnes SDF à dire oui, c'est un choix, parce que c'est très compliqué de dire non, je me suis fait totalement dépouiller, j'en suis là, je ne sais pas quoi faire. C'est aussi assumer quelque part de, d'être faible.
Et déclassé.
Et dans ce témoignage-là, en fait, il explique bien ça et il dit que s'il s'en est sorti, lui, c'est parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu et qui lui a dit mec, t'es un clochard. Donc il faut que tu t'en sortes. Parce qu'il y a ça aussi, il y a accepter... Enfin, je le dis avec ces mots-là qui sont très durs, mais je le fais exprès. Parce que ce sont, ou que ce sont des mots qu'on entend. Ouais. Et qu'à un moment donné, c'est ces mots-là qui sont le reflet de toute une société qui méprise ces personnes qui sont mises au banc. Alors, je reviens à la grève du SAMU social. Donc, sur un petit mail qu'a envoyé le collectif PUS, c'est-à-dire le collectif des professionnels de l'urgence sociale, à Radio... J'ai trouvé ce mail à Radio Canu, au niveau de la technique. Et à un moment donné, le SAMU... Donc voilà, les revendications sont la réquisition des bâtiments publics, la mise en place d'hébergements pérennes, dignes et adaptés, et la fin de la mascarade des chiffres. Et pourquoi je parle de la mascarade des chiffres ? Enfin, pourquoi je tiens à en parler aussi ? Parce que dans ce mépris collectif, il y a aussi une façon plus générale de cacher les choses, c'est-à-dire modifier les chiffres. Et toujours essayer de les cacher les uns par les autres. Par exemple, dire on a ouvert 300 ou 400 logements, même s'ils sont précaires, pour les personnes qui sont dans la rue, pour le plan grand froid, c'est un moyen de ne pas dire il y a encore 1600 personnes dehors. Et de la même manière, c'est dire qu'on a ouvert ces logements, ça ne veut pas dire qu'on a ouvert des hébergements pérennes. Donc, cette mascarade des chiffres participe aussi, finalement, pour le citoyen lambda, à se dire finalement quelqu'un d'autre s'occupe de ces personnes-là. Et finalement, c'est pas si grave. En fait, c'est ça le problème. C'est ça qui me choque. C'est qu'on se dise, c'est pas si grave. Et finalement, on se déconcerne. Alors, en effet, le petit paradoxe, c'est que tant que le SAMU social et ses associations seront là pour nous faire oublier, surtout en période de Noël, qu'il y a des gens dans le besoin, ça sera plus facile pour nous de les oublier. Ça, c'est une réalité. Maintenant, il n'est pas impossible de les aider. D'ailleurs, surtout en cette période, puisqu'ils sont en sous-effectif, qu'ils n'arrivent pas à répondre à tous les appels et qu'il y a une vraie demande de renfort. Et puis même sans ça, juste y penser, juste l'action quotidienne. Moi, je pense que... Alors, je ne vais pas vous dire... vous faites selon vous, comme vous voulez, suivant votre humeur, mais je pense que quand quelqu'un vous demande de l'argent, vous dit bonjour, la moindre des politesses, c'est de répondre bonjour et de ne pas passer devant les personnes sans les regarder. Même si vous n'avez rien à leur donner, parce que on n'a pas toujours les moyens, on n'est pas toujours d'humeur, on peut pas être toujours mais juste reconnaître la dignité déjà, et surtout quand vous voyez quelqu'un vraiment en difficulté, ne passez pas devant sans le voir. Quelqu'un qui est allongé dans la rue, qui a l'air vraiment mal, on en parlait pendant la prépa, on a tous été confrontés à des cas où il y a une personne qui est vraiment en situation de malaise. Ne les laissez pas. Il y a des gens qui peuvent vous aider, donc les pompiers, le SAMU social, etc. Et vous pouvez juste vous concerner. Et pas la police.
N'appelez pas la police.
Surtout pas la police, parce que vous ne connaissez jamais la situation des gens. Non. Vous pouvez être...
Mais appelez les pompiers.
Mais les pompiers, les ambulants, le 115 est là pour ça. Ouais. Donc il faut...
Mais quand il y a une situation d'urgence, faites le
18.
Le 18,
dans tous les cas.
Ou le 15, mais appelez pas le 17.
Jamais.
Ce numéro-là. Mais d'ailleurs,
sans faire d'anti.
Non, mais c'est juste. Voilà. Que, alors, je veux dire franchement, c'est que les policiers sont pas formés pour ça. On va être très clair, et que de toute façon, c'est la police, ça reste encore une force de répression, je crois, du contraire, et de surveillance, alors que les pompiers, c'est une force d'entraide. Donc, autant appeler les bons. Voilà, c'est tout.
Tout à fait.
Et je vais juste dire une chose, mais ça n'engagera que moi, parce que c'est pas tout à fait légal, mais c'est moi qui le dis. Vous pouvez aussi, même quand c'est écrit dans vos règlements de copropriété qu'il ne faut pas ouvrir les cages d'escalier, eh ben, ouvrez-les, parce que quand les gens crèvent le froid et qu'il fait moins 7 dehors, eh ben voilà, vous oubliez de fermer la porte et puis vous laissez la personne rentrer et dormir un peu plus au chaud. Si vous avez le courage de le faire, parce qu'il faut une forme de courage chez certaines personnes, vous pouvez aussi l'inviter chez vous, parce que, ouais, une douche et puis dormir. Mais juste des trucs très très bêtes, il y a des arrêtés municipaux dans certaines villes qui interdisent de nourrir les personnes à la rue. Eh ben, envoyez chier ces arrêtés municipaux.
Totalement.
Et puis voilà. Et puis si on vous dit quelque chose, envoyez chier la personne qui vous dit quelque chose et allez au bout du raisonnement. Voilà.
Et puis de toute manière.
Non, je vais juste revenir juste sur les numéros. Enfin, qu'on disait appel 18. C'est une chose importante aussi. C'est comme aller au. Enfin, ne pas aller aux urgences quand vous avez quelque chose de grave. C'est bien très important de savoir. Qui vous appelez, savoir qu'est-ce qu'ils font, parce qu'il ne faut pas déranger les gens pour rien. Parce qu'ils ont d'autres choses à faire, en fait, qui leur correspondent et qui sont leur travail.
Et puis, pour revenir sur ce que tu disais, j'ai perdu le fil, donc peut-être je vais m'arrêter là. juste avant, tu...
Non, mais je disais qu'à un moment donné, on n'est pas obligé d'être tout le temps dans la légalité face à ces choses-là, parce que sinon, on fait justement, on revient à ce que tu disais, à ne rien faire, parce qu'on se dit, ça, j'ai pas le droit, ça, je peux pas, ça, je suis... Enfin, je veux dire,
Puis notre société, elle est hyper restrictive et hyper individualiste, et dans tous les cas, on nous autorisera pas à venir en aide à notre prochain, donc il faut le faire par soi-même.
Faut pas attendre l'autorisation.
Et puis, faut à un moment donné se dire aussi que quelqu'un de reconnaissant va pas vous poignarder dans le dos.
Non, ça c'est clair.
À un moment donné, faut aussi faire confiance un petit peu à la nature humaine. Si vous permettez à quelqu'un de dormir dans votre cage d'escalier ou mieux chez vous, suivant vos possibilités, c'est pas quelqu'un qui va vous faire du mal, normalement. Sinon, à ce moment-là, vous appellerez la police, mais ce sera pour une autre raison.
Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est surtout qu'il faut arrêter avec le fantasme de la violence, des choses comme ça, parce que c'est pas... Voilà, c'est des peurs qu'on s'inflige, en fait, au final. Mmh. Et ces peurs-là, elles nous coupent de l'humanité qui est même en nous, en fait.
Donc, voilà. En ce 22 janvier, s'il vous plaît, pensez qu'il fait froid dehors et pas que pour vous. Et musique.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Merci. C'est dur, je confesse. Moi je vais m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir un toit, une adresse. Même si de toi à moi c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, mais tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, de parfois, j'ai qu'une envie, abandonner. Je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Ne me ferme pas la porte.
Et c'était donc Claudio Capello pour rester dans le thème avec Un homme debout.
C'était mieux ce qu'il faisait avant.
Mais c'est pas grave.
Ok. Chercher ce qu'il faisait avant. Donc.
Avant d'être connu par la grande révélation qui est The Voice. C'est The Voice, c'est ça.
Ouais, je crois qu'il a fait un truc comme ça. On en parlait pendant la prépa. Avant d'être donc vraiment reconnu de manière un peu plus large, il avait fait plein de trucs, même un peu engagé, un petit peu machin, et qu'il a vite supprimé quand il a été signé.
Que sa maison de disques l'a obligé à supprimer une fois qu'il a signé.
Encore un cas de Centris. Alors, on peut passer aux brèves. Les brèves pour cette semaine. Donc déjà, ça commence lundi 23, toujours la permanence juridique pour les sans-papiers et leurs proches à la Lutine, à 18h30, 80 rue Montesquieu, dans le 7e. Ça, c'est tous les lundis. Ensuite, les salariés de Médialis. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Médialis, ce sont les gens qui sont les amis dans le réseau TCL. Vous savez, les gens qui font rentrer, sortir, surveiller un peu dans les bus. Ils appellent un rassemblement lundi 23 janvier, donc à 10h, 5 rue Salah. C'est pour soutenir leur collègue qui est convoqué le même jour et pour dénoncer les conditions de travail qu'ils ont. Voilà. Donc je vous invite à aller les soutenir. Jeudi 26 janvier 2017, rendez-vous à 19h à la MJC de Villeurbanne, 46 cours Jean Damido. Pour la deuxième soirée du cycle Que devient la colère des peuples, avec la projection de Je suis le peuple d'Anna Roussillon. Alors, c'est lié au printemps arabe, justement, alors qu'un chant révolutionnaire s'élève de la place Tahrir à 700 km de là, au village de Jazira, rien ne semble bouger. C'est par la lucarne de sa télévision que Farage va suivre les bouleversements qui secouent son pays. Voilà, pendant 3 ans, un dialogue complice se dessine entre la réalisatrice et ce paysan égyptien. Leurs échanges témoignent du ballottement des consciences et des espoirs de changement. Voilà, donc c'est à la MJC de Villeurbanne, jeudi 26 janvier à 19h. Sinon, vous avez le même soir vers la plus queer des insurrections. Parce que souvent, les gens se demandent, mais c'est quoi donc que c'est que le mouvement queer? Et ben voilà, c'est l'occasion d'aller voir ça à 19h à la librairie Terre des Livres, 86 rue de Marseille, dans le 7e. Donc je vais vous le résumer un petit peu. Bashback, une nébuleuse œuvrant pour une autodéfense active et violente, autant que pour une critique radicale de la marchandisation, c'est mieux, des luttes queer. Voilà. Donc vers la plus queer des insurrections est la traduction en français de Queer Ultraviolence Bashback, une anthologie publiée en 2011 par Ardent Press aux États-Unis, une anthologie du mouvement queer insurrectionnaliste Bashback, voilà, qui est né lui en 2007, et ça a été compilé par Fray Baroque et Tegan Enali. Alors l'émission qui est sur Radio Canu, on n'est pas des cadeaux, et les monstrueuses permanences vous invitent donc à une rencontre avec Diabolo Ningmon et Décibel Espanto, qui sont les traductrices et traducteurs de ces textes, hein, voilà. Et le lendemain à 17h, dans On n'est pas des cadeaux, vous retrouverez les gens qui présentent ce texte dans l'émission. Voilà. Et samedi 28, si ça vous dit d'aller vous promener à Saint-Étienne, vous pouvez, avec la promenade Saint-Étienne Belle et Rebelle. Ah, ça donne envie, hein. Alors, Berlin, Détroit, Saint-Étienne, les anciennes cités ouvrières semblent trouver leur salut par la culture et les projets alternatifs. Ville minière, cosmopolite et prolétaire, désormais capitale du design munie d'un quartier d'affaires, Saint-Étienne revêt dans les discours de multiples facettes. Voilà, derrière les mots, le quotidien et la mémoire des habitants proposent des images urbaines différentes. Alors c'est sur rendez-vous et c'est à 14h15 sur le parvis de la gare de Saint-Étienne, Château-Creux. Vous pouvez donner des tarifs au choix entre 0, 8, 12 et 15 euros. Pour donner un petit coup de main. Et pour vous inscrire et réserver, c'est à contact@pasdecote.fr. Voilà. Et si vous êtes sur Lyon et que vous avez envie d'aller entendre parler du monde du travail, ça se passera à la librairie La Griffe, 5 rue Sébastien Griffe, dans le 7e, à 15h. Et c'est Journal d'un intérimaire, l'usine Nuit et Jour. C'est de Patrice Thibaudeau et il vient vous présenter ce que c'est que de vivre en tant qu'intérimaire dans des usines de plasturgie et dans des usines, je crois, d'emballage, si ma mémoire est bonne. Et comment ça se vit aujourd'hui, le monde du travail qui, soi-disant, n'est plus du tout violent, d'après plein de gens. Voilà. Et donc, c'est un peu une histoire d'avoir une vision autre du monde du travail que celle que nous présenterait, par exemple, un Macron ou d'autres des gens comme ça qui parlent du travail sans jamais avoir mis les pieds dans une usine. Voilà, c'était pour l'agenda, on va dire, les petites brèves, l'agenda de la semaine à venir, voilà.
Et puis, très bien. Très bien.
Et ben, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Oui, non, tout va
non,
bien ?
Ça m'a semblé très bien, je note, j'ai pris des notes.
Et ben, on va se quitter, mais on va d'abord se présenter le titre avec lequel on se quitte.
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce que c'est donc, Clara ?
Ben, on se quitte avec Black, un titre composé par Danger Mouse et Daniel Lupi, avec la voix de Norah Jones.
Ça va être bien. Non, elle ne veut pas en dire plus, elle a dit.
C'est tiré de l'album Rome, qui est en fait la bande originale d'un film imaginaire.
C'est chouette comme idée. Voilà. J'adore. Non, mais ça fait envie. Eh bien, bonne semaine à toutes et à tous. Bon courage et on se retrouve la semaine prochaine de bonne humeur et de pas de bonheur, c'est à 22h.
Mais tout à fait. Et bonne nuit pour ceux qui s'endorment.
Couvrez-vous. Voilà.
Oui, il fait froid.
Et bon courage pour ceux qui travaillent.
Salut.
Salut. Salut.
Salut. City streets and didn't explain. Sadly, so does our ways. I've never asked why. Cast down, it was heaven sent in to the church. No intent to repent on my knees, just to cry.
Looking up with no stars in the sky. Those partagez tout.